Au mois de novembre l'an dernier, non pas en 2014, mais en 2013, je me retrouvais au Vermont, au prieuré de Weston, un prieuré de moines bénédictins. Je ne me souviens pas tout à fait de quelle obédience. Ah, voyez déjà, il y a des différences. Hein? Et je me trouvais là parmi les retraitants. Il y avait donc là un pasteur pentecôtiste et sa femme. Il y avait une pasteur de l'Église méthodiste unie des États-Unis. Il y avait également un jeune pasteur luthérien tout fraîchement ordonné. Il y avait un prêtre anglican à un moment donné, pas pendant toute la retraite. Oh, il y avait bien quelques catholiques aussi. Et tout ce beau monde se retrouve à la célébration tous les jours. On nous met à l'aise. Au moment d'attendre le dîner, il y avait un petit moment où on pouvait parler ensemble en attendant de manger avec les moines à la façon traditionnelle, silence et lecture. Et donc, tout ce beau monde se trouvait réuni sous un même toit. Ça aurait été impensable il y a seulement 150 ans. Le catéchisme de Westminster, catéchisme de l'Église presbytérienne, professait haut et fort que le pape était l'Antéchrist. Et donc, chaque petit presbytérien apprenait à l'école du dimanche que le pape était l'Antéchrist. On sait aussi dans les foyers canadiens français que la Bible était interdite. Autre temps, autre mœurs. Il y a eu, d'abord bien avant le Concile Vatican II, un renouveau biblique, beaucoup incarné, d'ailleurs on vient d'en lire les psaumes, par l'école biblique de Jérusalem et le Père Devaux. Il y a eu chez les protestants des rapprochements. Imaginez, à la fin du 19e siècle, le pasteur Théodore Monod fondait un tiers-ordre. Imaginez, chez les protestants, un tiers-ordre pour aider les pasteurs à nourrir un peu leur foi, à être un peu moins séculiers dans leur façon de vivre. Et puis, en France, un ordre est fondé, les diaconesses de Reuilly, des sœurs hospitalières protestantes. En Suisse, plus récemment, on voit poindre la communauté de Grandchamp, démoniale, contemplative, protestante. Dans les séminaires, dont le collège presbytérien, on enseigne, imaginez-vous, la Lectio Divina, donnée à l'Église universelle par Saint-Benoît. Saint-Benoît dépasse les murs. Chez les catholiques, je pense, bien évidemment, votre liturgie, qui est très inspirée par la liturgie orientale, André Gouze a fait un malheur, peut-être pas le mot à utiliser dans une église, mais dans les années 80, peut-être fin 70. Ensuite, la communauté... une communauté bénédictine de moines et de moniales qui se met à chanter des hymnes anglicans, des cantiques du psautier de Genève. Et donc, on se prête les uns les autres comme ça dans nos traditions et on apprend des choses. Quand on chante chez les catholiques, « Je chanterai, nous chanterons pour toi, Seigneur », ben, il vient tout droit du psautier de Genève. Alors, vous voyez que quand les catholiques se mettent à faire les calvinistes ou chantent des chants luthériens pendant l'Avent, déjà que Bach, c'est quand même pas le plus fervent catholique romain qu'on ait rencontré. Si on revient au texte qui est ici, « Reconnaître la richesse de l'autre et laisser notre cruche ». Au verset 25, la Samaritaine nous dit son espérance. Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera. Déjà une confession. Sans le rencontrer, sans savoir que celui qui est devant elle est le Christ, elle nous dit son espérance. Elle nous dit sa confiance qu'avec le Christ, tout va s'éclaircir. Jésus venait de lui dire, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Ceux qui prient avec le cœur. Son cœur attend le Seigneur. Jésus lui dit, c'est moi, je te parle. Là-dessus arrivent les disciples qui s'étonnent de le voir parler avec une femme. Ils sont en droit de se poser la question, tout dans leur trip résiste à ces nouvelles façons de faire. Ce n'est pas convenable, ça ne se fait pas. Mais ils connaissent bien leur maître. Jésus, c'est Jésus. Il est comme il est. Il bouleverse toujours tout, on ne le changera pas. Il lâche prise. Par conséquent, aucun ne dit « Que cherches-tu ?» ou « De quoi parles-tu ?» Non, ça ne donne rien. Ça ne donne rien de poser la question, ni d'essayer de comprendre. Le Seigneur sait ce qu'il fait, semble-t-il. Puis la Samaritaine laissa donc sa jarre. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la portée de son geste? Que représente tant sa jarre, son quotidien, sa routine, ses habitudes? Plus encore, l'essentiel, l'eau, la vie. Laisser sa jarre, n'est-ce pas lâcher y? Déposer ce qui fait sa sécurité au quotidien, se laisser déstabiliser. On n'a pas besoin de penser, surtout mes frères, mes sœurs, vous qui êtes en communauté, de penser nécessairement ce qui se passe dans l'église de l'autre. On est assis à la même table à manger en silence et souvent on se demande, bien, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre qui est à côté de moi? À quoi pense-t-il? À quoi pense-t-elle? Cette difficulté de faire des choses ensemble, de travailler en équipe, c'est déstabilisant. On a un plan tout fait, on veut le partager, et voilà que des gens disent « Oui, mais as-tu pensé à telle chose? Ah, moi, j'aimerais bien qu'on fasse telle chose. » Et donc, il faut déjà lâcher prise, il faut déjà trouver des façons de faire, des façons différentes, et donc de se laisser toucher par la créativité. Comme je disais tout à l'heure, on a déjà un patrimoine commun. Des pas qui ont été faits les uns avec les autres. Et donc, tranquillement, pas vite, un peu comme la dérive des continents, mais vers le centre. Je vous rappelle la confession de la Samaritaine, le Christ. Jean Calvin parlait du salut en Jésus-Christ comme étant fichu en Christ, d'être en Christ, de porter le Christ, de vivre, d'être collé sur le Christ. Est-ce que nous ne partageons pas cela? Et il y a des travaux qui se font. Le groupe des Dômes qui fait un livre épais comme ça sur la Vierge Marie. Tiens donc, aurions-nous un patrimoine commun par rapport à Marie? Aurions-nous un patrimoine commun par rapport à l'Eucharistie? On a tellement mis nos différences en évidence qu'on oublie ce qu'on a en commun. Et si l'autre avait quelque chose à me dire, si l'autre avait quelque chose à m'apprendre, quand j'entends que Marie est la théotokos, celle qui porte Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi, protestant? Est-ce que je dois déchirer ma toge devant une telle affirmation? Je suis trop proche de mes sous pour ça. Donc, s'aventurer dans des eaux inconfortables, peut-être pour apprendre quelque chose. Quand moi, protestant, je dis, quelle bénédiction de faire du ministère avec des femmes et quelle dimension elles apportent à l'Église. Évidemment, le ministère ordonné n'est pas un must. La complémentarité homme-femme peut se vivre de 50 000 façons. Mais si on se laissait aventurer, évidemment, ce n'est pas moi tout seul qui va décider tous les grands changements qui vont arriver, ce n'est pas vous non plus. Mais simplement se dire, hein, oui, c'est inconfortable, oui, mais... Et si les protestants se mettaient à réfléchir sur la présence de Dieu à l'Eucharistie? Je vais finir là-dessus parce que je sens bien qu'on avance. Hein. Mais il y a eu un colloque sur Jean Calvin au Collège presbytérien en 2009. C'était Saint-Centenaire donc de Jean Calvin. Et un professeur de McGill, catholique romain, est venu parler des ressemblances entre la doctrine eucharistique de Jean Calvin et celle de Thomas d'Aquin. Et si on avait un bagage commun? Et si on avait un héritage? Mais la condition de ça, c'est de déposer notre cruche, tous nos présupposés, et simplement se mettre à l'écoute. Il n'y a personne qui est en danger. On demande à personne de se défaire de son identité propre. Mais si on est bien enraciné dans notre tradition et qu'on laisse pousser l'arbre, à ce moment-là, les branches peuvent tendre vers l'universel. Alors, je peux appeler François mon frère. Et en quelque part, un petit peu, je parle bien de François le pape, un petit peu mon père, il est un peu plus âgé que moi. Et s'il pouvait m'apporter à moi aussi. Et voilà ce que ce texte, que j'espère ne pas avoir trop tordu, nous apporte. Laisser sa jarre, ses habitudes. Le mot que Claire va bien aimer, mais ça va référer à quelque chose qu'elle connaît, sa petite tranquillité. Laisser tomber, pour un homme, c'est toujours très difficile, ses pantoufles confortables. Et aller se lancer à l'aventure de la découverte. Ouvrir tout grand nos cœurs pour rendre cette Église de demain possible. C'est tout simple. Écouter, se reconnaître frère et sœur, et se reconnaître enfant d'un même Père, et sous l'influence de l'Esprit-Saint, crier ensemble, que ce soit en slavon, en français, en latin,